du nord-est de la capitale Damas et mettre fin au règne de la famille Assad qui a gouverné le pays pendant un demi-siècle. Est-ce qu'on peut revenir sur les facteurs internes et externes qui ont conduit à la chute de Bachar al-Assad?
Pour les facteurs internes, Assad était prêt à tomber depuis assez longtemps. C'est plutôt les facteurs externes qui ont changé très très vite, et ce depuis l'opération du 7 juillet. L'opération du 7 juillet a pratiquement neutralisé toute intervention du Hezbollah en Syrie. Le Hezbollah était devenu trop faible pour être de quelque utilité que ce soit. Les attaques israéliennes contre les forces iraniennes, les généraux, les officiers iraniens qui encadraient l'armée syrienne en Syrie a fait beaucoup de dégâts. On se souvient même de l'attaque du consulat iranien où un très haut gradé a été tué. On se souvient que ça a occasionné des échanges de missiles entre Israël et l'Iran. Une mini-guerre un peu timide mais qui n'a pas donné de... Que les deux protagonistes ont tenu à garder bien contenu et bien limité. Les Russes sont trop impliqués en Ukraine, ils n'ont plus tellement les possibilités ni peut-être la volonté de supporter un régime qui commence à leur coûter très très cher. La Turquie a enfin les mains libres, donc du moment où ça garde les Kurdes en échec, ils ne vont pas essayer de faire quoi que ce soit d'autre. Les Turcs se sont chargés d'appuyer ces rebelles pour pousser jusqu'à Damas et donner et faire échec et mat.
En effet, beaucoup ont évoqué le rôle ou l'abandon de la Russie. Monsieur Gillon, est-ce que le régime Assad aurait pu éviter cette offensive?
Sur le plan conjoncturel, c'est toujours difficile de prévoir quand est-ce qu'une offensive va avoir lieu, laquelle va réussir, etc. Ce qui est certain, c'est que les causes du problème qui ont mené de nombreux Syriens dans les manifestations en 2011 étaient toujours là. Vous avez un régime qui est globalement rejeté, il y a beaucoup de familles qui ont des membres dont les membres sont en prison ou ont été réprimés, la corruption rampante, le sectarisme également. Et tous ces phénomènes-là, c'était en fait plutôt aggravé pendant la guerre plutôt qu'il ne s'était calmé. Donc finalement, vous aviez tous les ingrédients qui avaient mené à la tentative de révolution échouée en 2011-2012 qui était toujours là. Ce n'était qu'une question, selon moi, en tout cas, ce n'était qu'une question de temps pour que ça reprenne. Voilà globalement ce qu'on peut dire. Le régime syrien, il faut aussi remettre un peu les choses dans leur contexte. Avant l'offensive rebelle, pour les rebelles, c'était en fait une contre-offensive parce que Assad était en train d'essayer de réduire l'enclave rebelle de Idlib, et les premières offensives rebelles étaient en fait destinées à contrer ces bombardements-là. Et presque les rebelles, on était même presque surpris eux-mêmes de leur avancée et de leur premier succès.
Vous disiez cela aussi à l'instant, Monsieur Baroudi. Et les nouvelles autorités en Syrie promettent stabilité et calme aux Syriens. Mais la question que l'on se pose, c'est si la chute d'Assad ouvre réellement la voie à une transition pacifique en Syrie, ou risque-t-elle de plonger le pays dans le chaos encore une fois?
Je crois que ça va être une transition pacifique, obligatoirement pacifique, parce qu'il n'y aura pas, il ne pourrait pas y avoir autre chose. Bien sûr, les risques existent, mais une islamisation poussée des rebelles et du nouveau gouvernement pourrait bien sûr se faire. On fera face à un scénario à la Morsi en Égypte, mais je ne crois pas que ce soit pratiquement possible, parce que ces personnes-là n'ont plus aucune arme stratégique. L'armée syrienne a pratiquement été détruite. Israël a pratiquement détruit toutes les armes stratégiques de l'armée syrienne. Pas de fusées, il y a encore quelques unités de guerre chimique, mais aussi là, sans vecteur, ça ne va pas être possible sans les missiles. Il n'y a pas de possibilité et de possibilité majeure pour l'exécution d'un tel projet. Ajoutons à cela que les frontières sont vraiment bien tenues. La Turquie qui les pousse à faire ça, c'est portée probablement garante de leur non non-extrémisation, si on peut dire. Mais il est sûr que le risque existe, c'est vrai, mais je ne crois pas qu'il soit très très fort.
Le risque existe et les nations étrangères, on a suivi dans le reportage un peu plus tôt, le président Joe Biden qui appelle tout de même à rester prudent. Donald Trump, lui, il a déclaré qu'il a demandé aux États-Unis de ne pas se mêler du marasme syrien, mais l'administration Biden juge au contraire qu'il en va des intérêts vitaux des États-Unis. Est-ce qu'on peut dire, on se pose des questions sur ce que sera la place de la Syrie dans la politique étrangère des États-Unis. Une idée, Monsieur Gillon?
C'est une excellente question. Tout d'abord, rappeler que le gouvernement de transition ou de salut national, comme il a été appelé, ne comporte pas de ministre des Affaires étrangères. Donc c'est quand même une indication sur le fait que les nouvelles autorités à Damas vont plutôt se concentrer sur les problèmes urgents de l'intérieur, quelles que soient les attaques israéliennes au Golan occupé et même maintenant directement sur dans la zone tampon qui avait été instituée dans les années 70 après la guerre de 73. La question de la diplomatie américaine va être importante. Je pense que pour qu'il y ait déjà une première relation, il faudrait que l'homme fort de Damas en ce moment, Joulani, sorte de la liste des personnalités recherchées par le FBI, il me semble. Et sa tête a mise à prix à 10 millions de dollars. Je crois que c'est un sujet qui est en ce moment étudié tant aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne. Et évidemment, la question israélienne va, je pense, compliquer probablement les relations entre Washington et les nouvelles autorités. Tout ça est de la prospective. Hein. On est encore à quelques jours de la libération de la Syrie. Je pense, déjà, il faut rappeler aussi que les États-Unis reconnaissent la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Voilà, je pense qu'il n'y a aucun Syrien aujourd'hui qui est prêt à accepter cette position américaine. Donc, encore une fois, la question israélienne va être au cœur de la relation entre Washington et Damas. À voir est-ce que Washington va réussir à dissocier sa relation avec la Syrie de sa relation avec Israël. Pour l'heure, ça me paraît compliqué, et surtout pour l'heure, ça ne me paraît pas être dans les priorités immédiates du nouveau pouvoir à Damas. D'ailleurs, Ahmed al-Sharra, celui qu'on appelait Abu Mohammed al-Joulani, le patron de Hayat Tahrir al-Sham, a d'ailleurs fait une déclaration en ce sens en disant que ce n'était clairement pas la priorité pour le moment de rentrer dans une confrontation avec les Israéliens.
Donc c'est justement pour son profil controversé du nouvel homme fort de la Syrie que les nations étrangères mettent en garde.
Oui, évidemment, à l'aube de n'importe quelle nouvelle ère, dans n'importe quel pays, à la suite de n'importe quel changement de régime, beaucoup de points d'interrogation restent suspendus. On attend toujours de voir qu'est-ce qui va se passer. On va toujours essayer de savoir si les promesses vont être tenues, si le respect des normes démocratiques, qui sont pratiquement aujourd'hui les normes aussi de tout le monde, pour accepter un changement de régime ou pas, si tout cela va être accepté. Il faut dire que tout le monde va essayer de faire son possible pour paraître sous une bonne lumière.
Quand vous dites tout le monde, les nations étrangères?
Les nations étrangères, les Syriens eux-mêmes, les factions syriennes aussi, Israël, la Turquie, la Russie et tout. On attend la venue de Monsieur Trump à la Maison Blanche, qui promet un grand deal. Donc tout le monde est en train de ramasser ses cartes, de préparer les cartes qu'il a en main pour paraître sous une bonne lumière, pour être pour faire avancer chacun, pour faire avancer son agenda finalement.
Une autre déclaration que j'aimerais partager avec vous, les développements, c'est une déclaration de l'Allemagne concernant la Russie. Les développements en Syrie montrent que les pays qui ont un partenariat stratégique avec la Russie ne peuvent compter sur Moscou que tant qu'ils sont utiles au président Vladimir Poutine. C'est une déclaration du ministre allemand de la Défense. Est-ce que la chute d'Assad est un signal que la Russie réévalue son rôle dans la région? Parce que beaucoup parlent d'abandon de la Russie à l'égard de Bachar al-Assad. Monsieur Gillon.
Je pense que c'est encore une question ouverte. Est-ce que la Russie a lâché Assad C'est fort possible, c'est fort possible effectivement. Maintenant, on a quand même vu que l'aviation russe a essayé de retenir l'avancée rebelle. La Russie n'a pas été complètement passive non plus dans les conflits, dans le conflit de ces deux dernières semaines. Donc dire que c'est le départ des Russes qui a précipité la chute d'Assad, ça reste encore à voir. Je pense que toute la lumière n'a pas été encore faite sur le rôle de la Russie. Il y a notamment des informations selon lesquelles les Russes avaient demandé, avaient conditionné l'asile en Russie de Bachar al-Assad au fait que l'armée syrienne se retire ou ne riposte pas. C'est possible, je n'ai pas de réponse à cette question-là, c'est fort possible. En tout cas, je pense que la Syrie restait et demeure encore aujourd'hui stratégique pour la Russie. Toute la question va être de savoir est-ce que la Russie va réussir à prendre contact, un contact positif, je dirais, avec les nouvelles autorités à Damas pour conserver ses installations militaires. Je ne crois pas que la Russie se soit désintéressée de la Syrie. Je pense que le départ russe est subi plus qu'actif en réalité.
Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Baroudi?
Je suis un peu dans la même ligne. Les Russes sont trop occupés en Ukraine. Ils préparent leur dossier pour les négociations à venir avec le président Trump.
Vous pensez qu'il y aura une possible relation entre la Russie et les nouvelles autorités en Syrie?
Bien sûr, ils ne vont pas pour autant complètement lâcher toute relation, mais ils ne pouvaient plus appuyer un régime qui se mourait, qui était mort et qu'il fallait pratiquement enterrer. D'ailleurs, la réunion qui a groupé les Russes, les Turcs, les Iraniens à Doha il y a quelques jours avant la chute du régime, je crois que les Russes à ce moment-là ont su que c'était trop tard, qu'il ne fallait rien faire, et c'est là où ils ont probablement commencé à conseiller à M. Assad de partir le plus facilement possible, d'établir un gouvernement de transition ou de quoi que ce soit. Mais je crois que les rebelles ont été plus rapides en arrivant à Damas bien avant que ce soit mis en place.
Et y aura-t-il des actes de vengeance à l'égard de la famille Assad? On en parlera dans la deuxième partie de cette édition, mais avant, la situation en Syrie intéresse également nos téléspectateurs en Afrique. Et que pense-t-il de la chute de Bachar al-Assad? Je vous propose quelques réactions recueillies sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Archidic Théodore de N'Djamena au Tchad qui nous dit que la chute de Bachar al-Assad est due aux nombreuses répressions sommaires, des arrestations arbitraires, des abus de pouvoir, liberticides et du règne dynastique sans partage. Le peuple syrien en avait marre et était prêt à se débarrasser de ce tyran par tous les moyens, quel que soit l'appui des alliés de Bachar. Moussa Zabeirou nous dit qu'il est fatigué, que le peuple, Bachar al-Assad, selon lui, est fatigué lui-même du pouvoir car il sait qu'il ne va pas durer longtemps. Sinon, comment, en moins de 2 semaines, des rebelles vont s'emparer du pouvoir? Il a ordonné que son armée se retire pour ne pas faire de victimes civiles. Ce n'est pas ce que les Libyens ont fait en 2011 après l'élimination de leur guide, s'interroge Sébastien Sampongo au Burkina Faso. Selon lui, c'est un chef terroriste qui remplace un dictateur et on parle d'espoir. Merci pour vos commentaires. On se retrouve après la pause pour la suite de ce débat et les commentaires de nos invités. Washington Forum sur VOA Afrique.
Nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day.
Dans des Full B, braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis.
Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change.
Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité.
Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17 630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique.
Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day.
Oh,
toujours une grande réunion avec vous dans Washington Forum sur VOA Afrique. Merci pour votre fidélité à cette émission. Nous parlons aujourd'hui de la situation en Syrie. Et pour ce débat, je suis avec Émile Baroudi, journaliste spécialiste du Proche-Orient et de la France. Nous rejoint de via Skype Djihad Gillon, journaliste pour le Média Africa Intelligence et spécialiste du monde arabe. On l'a vu ces derniers jours, l'armée israélienne a mené des centaines de frappes sur le territoire de son voisin syrien. Ces frappes sont sans fondement au regard du droit international, selon des experts de l'ONU, affirmant que le désarmement préventif ouvrait la voie au chaos mondial. Ma question est, la Syrie, c'est une autre déclaration également, la Syrie ne doit pas redevenir le jouet de force et de puissance étrangère, prévient l'Allemagne. Mais dans quelle mesure cette déclaration reflète-t-elle une crainte de voir la Syrie redevenir un nouveau champ de bataille ou pour des guerres par procuration ?
Je crois que se débarrasser de ces armes est un bon moyen d'éviter tous ces conflits. Personne n'ayant accès à des armes sophistiquées, toutes ces parties vont se poser beaucoup de questions avant d'essayer de faire quoi que ce soit. Ils seront obligés de toujours... De rester dans la mouvance pacifique qui est en train de se faire, qui est en train de donner une nouvelle base, un nouvel espoir à la Syrie. Se débarrasser des armes, ce n'est jamais une bonne chose, surtout dans des régions où le pouvoir est toujours contesté. C'est des pays avec des mosaïques de confessions, de clans, de tribus, et ça ne fait pas bon ménage avec les armes, surtout stratégiques, les missiles, les trucs importants.
Le principal commandant des rebelles, Abu Mohamed Al-Dolani, a déclaré hier qu'il n'y aura pas d'amnistie pour les coupables de torture de détenus en Syrie. On se demande si cette déclaration concerne aussi la famille Assad qui serait aujourd'hui en Russie, M. Gillon.
Très certainement. D'ailleurs, on a vu une scène qui a circulé sur les réseaux sociaux de la pendaison d'un des cousins de Bachar al-Assad. Il me semble que c'était à Latakier. A priori, il a été tué avant d'être pendu. Mais oui, très clairement, il y a une demande de revanche au sein de la population, avec lesquelles les nouvelles autorités vont devoir composer, parce que la demande est forte. Il y a une envie de revanche qui est compréhensible dans un contexte de chute du régime, d'un régime quand même qui a martyrisé son peuple pendant quasiment 60 ans. Maintenant, les nouvelles autorités ne peuvent pas laisser tout un pays sombrer dans la revanche et le chaos, et dans des scènes d'exaction comme on a pu en voir quelques-unes. Pour le moment, ce mouvement m'a l'air d'être relativement contrôlé, et de toute façon, je pense qu'une grande partie de la famille Assad est déjà partie, y compris des officiers de haut rang. On a hier sorti dans Africa Intelligence un article qui révélait qu'un groupe d'officiers avait gagné la Libye côté Benghazi. On connaît les connexions d'affaires, notamment qu'il y a eu entre le clan de Khalifa Haftar, le général libyen, et le clan Assad. Donc voilà, a priori, je pense que les éléments les plus importants de l'ancien régime sont déjà partis. Maintenant, à voir si, une fois que l'État sera stabilisé, il y aura des demandes d'extradition, ce genre de choses.
Que pensez-vous ? Est-ce qu'il y aura des actes de vengeance aujourd'hui en Syrie, surtout à l'égard de ceux qui ont collaboré avec l'ancien régime ?
Effectivement, tout c'est possible. Tout ça est possible parce que les gens sont remplis, sont sous tension. Mais jusqu'à présent, rien de vraiment terrible ne s'est passé. On a vu quelques trucs arriver, mais vraiment rien de ce qu'on pourrait craindre d'une population qui a été mise sous pression pendant 40-50 ans. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Bien sûr, ce n'est pas une garantie pour le futur, mais si on suppose que les premiers jours auraient dû être très violents et que ça se calme par la suite, si ça a été le niveau de violence maximale, je crois que c'était parfaitement acceptable. Il n'y avait pas grand-chose. Les gens étaient très occupés par les libérations des prisonniers, par les retrouvailles avec les parents, les convoyés disparus à tout jamais. Ça a l'air bien.
La famille Assad n'aura pas à s'inquiéter.
La famille Assad, déjà, qui est en Russie, je crois que le gouvernement prochain, le futur gouvernement de la Syrie, bien sûr, essaiera de rapatrier les fonds que M. Assad possède. Il y a eu quelques années, on a parlé de ses comptes en Suisse, de sommes faramineuses. Il y aura beaucoup de tentatives de ce genre. Est-ce qu'elles aboutiront? On ne sait pas. Le cas Kadhafi n'est pas très positif quand on mesure la similitude des cas.
Beaucoup comparent en effet cette situation en Syrie à la Libye.
Oui, mais j'ai l'impression que ça va mieux se passer parce que justement il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de... Si Jolani, c'est Hayat Tahrir al-Sham, se conduit bien et conduit bien les choses jusqu'à l'arrivée d'un gouvernement vraiment national, des élections démocratiques et tout, ça se passera bien. S'ils pousseront un peu vers l'extrémisme, je crois que beaucoup de pays, surtout du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, ne donneront plus de soutien, surtout financier, à cette islamisation, cette frère musulman que prendra cette mouvance. Si ça reste dans les limites du modéré et que ça conduise à un processus démocratique, il y a de fortes chances que ça marche.
Parlons de la situation des réfugiés syriens dans le monde, notamment en Europe. Plus de 100 000 demandes de protection internationale émanant de Syriens en exil dans l'Union européenne sont à l'étude dans les 27 pays membres, selon des chiffres rendus publics hier. Plusieurs pays, plusieurs États membres de l'Union européenne, notamment l'Allemagne, l'Italie, la Suède et la Belgique, ont déjà annoncé suspendre le traitement des demandes d'asile de Syriens après la chute du gouvernement de Bachar al-Assad. Ma question: et que va-t-il advenir de ces milliers de demandeurs d'asile dans les pays européens? Ou bien ils vont rejoindre la Syrie ou chercher à aller ailleurs, Monsieur Gilles?
Alors, il reste à voir. Est-ce que ce sont les nouvelles demandes qui ne seront plus reçues ou est-ce que c'est les demandes en cours? Je crois que ce n'est pas encore très clair. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a beaucoup de Syriens qui se posent aujourd'hui clairement la question de savoir si un retour au pays serait une bonne chose. Je pense qu'il y a l'envie chez beaucoup de revenir et de retrouver son pays. Vous savez, quand on est réfugié, c'est jamais un choix. Maintenant, il y a aussi beaucoup de Syriens qui sont installés maintenant depuis plusieurs années en Europe, qui ont fait leur vie, pour certains qui ont un certain succès dans les affaires. Donc voilà, on peut imaginer que ces gens-là n'ont plus réellement de vie en Syrie et qu'a priori ils ont une vie stable en Europe et qu'il n'y a plus tellement de raisons pour eux de rentrer, sauf à vouloir reconstruire quelque chose sur place. Mais en tout cas, la question, je pense, aujourd'hui est présente dans toutes les familles syriennes, parce que toutes les familles syriennes malheureusement ont un ou plusieurs membres qui vit à l'étranger en exil.
Quelques mots sur cette question, s'il y aura des retours?
Dès que des plans de reconstruction seront mis et commenceront à être exécutés, beaucoup de Syriens rentreront. Aussi, dès que les NGO internationales pourront opérer en Syrie, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour l'instant à cause de la loi César, aussi beaucoup de réfugiés rentreront chez eux.
Je vous remercie pour ces contributions. C'est la fin de ce Washington Forum avec Alexandrine Frolognon à la présentation. Merci à mes invités, Émile Baroudi sur ce plateau avec moi et Gilad Gilon depuis la France. Merci également à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent. Washington Forum, vous le savez, le rendez-vous, c'est tous les jeudis, 19h30 universel, sur VOA Afrique et aussi sur notre site web, voafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche. Bonne soirée. We'll be right back.